France Musique.
Que c'est donc bête que ces petits durs de rire comme ça.
Un des 20 musiques folles, Priscille Lafitte, France Musique.
Bienvenue dans la grande revue des années 20. Nous étions hier à Paris, à la sortie de la guerre, avec Miss Tinguette et Damien. Nous étions au Music Hall et au Bœuf sur le Toit. Aujourd'hui, suite de cette décennie excentrique dans la ville lumière, avec quelques artistes venus des États-Unis, Cole Porter, Aaron Copland, la princesse de Polignac, George Gershwin et Joséphine Baker. Des Américains à Paris, c'est le 6e épisode des années 20 Musique Folle.
I'm feeling like a million, though I haven't got a dollar, shilling or so, still I'm feeling like a million. And I want to get this over to you that I'm feeling like a million. Though I haven't got a villa, a dugout or a bed, still I'm walking like a million. With my hat on the side of my head, what is this thing that I've found through the days that I've clowned? Is it you that's around? I got a crazy feeling I could jump up to the ceiling, cause I'm feeling like a million. Though I couldn't buy a collar, a necktie or a glove, still I'm feeling like a million. Is it you? Is it me? Is it love? Though I'm flat, though I'm broke, though I'm bent, I'm contented to never sigh as time goes by. There's a gleam in my eye, and inside of my heart I'm a lucky guy. There's a reason why I'm feeling like a million. Though I haven't got a collar, a shilling or a sou, still I'm feeling like a million. And I want to get this over to you that I'm feeling like a million. Though I haven't got a villa, a dugout or a bed, still I'm walking like a million. With my hat on the side of my head, what is this thing that I've found through the days that I've clowned? Is it you I've found? I got a crazy feeling I could jump into the ceiling, cause I'm feeling like a million. Though I couldn't buy a collar, a necktie or a glove, still I'm feeling like a million. Is it you? Is it me? Is it love?
Joséphine Baker.
Je suis venue sur un paquebot un jour de septembre. J'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Et qu'est-ce qui vous avait décidé à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique?
Eh bien, monsieur, parce que je savais par mes parents qui sont de la Martinique d'origine, qu'en France, j'aurai la liberté d'esprit et de corps.
Joséphine Baker est une adolescente de 18 ans quand elle arrive à Paris en septembre 1925. Issue d'une famille d'artistes fauchés du Missouri, mariée à l'âge de 13 ans, elle tient le nom Baker de ce premier mari. Elle s'est enfuie à New York pour danser dans la rue et finalement intègre une troupe de théâtre. Elle décroche un petit rôle dans la toute première comédie musicale au casting entièrement noir de Broadway, Shuffle Along, dont je vous ai déjà parlé lors des épisodes à New York. Elle tient alors un rôle de danseuse comique. Elle est repérée dans ce registre clownesque, se fait embaucher avec d'autres comédiens et danseurs ainsi qu'un petit orchestre dans lequel on trouve Sidney Bechet pour traverser l'Atlantique. La troupe arrive à Paris à la demande de Rolf de Marais, le patron du Théâtre des Champs-Élysées. Ses proches, notamment Fernand Léger, lui conseillent de faire venir des artistes noirs. Et quand la troupe se présente au Théâtre des Champs-Élysées, Rolf de Marais exprime sa déception. Ce n'est pas assez nègre. Que veut-il dire par là? Peut-être est-ce une confusion culturelle entre les Noirs d'Amérique et les Noirs d'Afrique subsaharienne? Rolf de Marais, en tout cas, attend quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer. Il veut voir des corps libérés qui symboliseraient cette folie des années 20. L'Empire français en Afrique est alors à son apogée et l'imagerie des femmes noires, qu'on suppose lascives et disponibles, envahit la France. On tient de cette époque l'expression « French postcard » pour parler des cartes postales érotico-exotiques. Pour trouver l'esthétique qu'il recherche, Rolf de Marais convoque Jacques Charles, revuiste confirmé, très connu sur la place de Paris. Il réorganise les tableaux pour avoir une revue nègre conforme à ses attentes. Jacques Charles repère Joséphine Baker et lui demande de se déshabiller. Elle n'est pas d'accord, elle veut repartir aux États-Unis. Il réussit à la convaincre de danser avec un partenaire une danse sauvage, cette danse qui cristallisera tous les fantasmes et la portera au pinacle.
Ah oui, c'était une époque merveilleuse, tu t'en souviens, José?
Oh, je pense bien.
Parce qu'à ce moment-là, il y avait Paul Colin, je te vois encore jouer sur la scène des Champs-Élysées.
Et Damien
aussi.
Souviens?
Parce que tu as été immédiatement, tu as attiré l'attention immédiatement, et Paul Colin, je m'en souviens fort bien, m'a dit, mais elle est extraordinaire, cette danseuse, il faut absolument qu'on la sorte, qu'on fasse un grand personnage parisien, car Paul Colin a joué un rôle considérable dans
je
ta carrière.
Je pense bien. Et tu te souviens aussi que, oh, le grand scandale dans notre troupe, parce que Colin l'a dit, en fait, déshabillez-vous, petit à petit. Et parce qu'il voulait me dessiner, vous vous souvenez?
Oui, c'était...
Et alors, toutes les filles disaient, enfin, toutes nues, qu'est-ce que ça veut dire? C'est scandaleux, etc. Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on veut faire de moi? Et je n'ai jamais rêvé que, pourquoi que les gens puissent trouver enfin, des gens, enfin, tas de petits endroits de mon corps intéressants.
Tandis que maintenant, comment? Mais si, je proteste alors. Tandis que maintenant, tu es habillée d'une façon magnifique, évidemment, le personnage a changé du
moi,
tout au
tout. Moi, j'aime
mieux
ça.
Madeleine Millot.
C'était absolument extraordinaire, ça nous a passionnés. Darius avait déjà vu des spectacles de ce genre, bon, puisqu'au fond, il en avait vu en Amérique, mais je dois dire que c'était un spectacle extraordinairement réussi. Ils n'étaient pas nombreux, c'était une petite compagnie, mais ces femmes qui avaient monté ça, qui sont des femmes de Chicago, dont je ne me souviens pas le nom, avaient monté ça avec un goût impeccable. Et puis, on était en présence d'une catégorie de nègres qu'on n'avait pas connues, c'était les claquettes qu'on n'avait jamais vues vraiment sur scène, ces numéros de claquettes qui étaient assez, paraissaient périlleux. Et puis ce personnage stupéfiant qu'a été, c'était une explosion, qu'a été Josephine Baker à 19 ans. Personnage comique, irrésistible, avec un corps d'acier, superbe. C'est impossible d'oublier ça.
Physiquement, comment se présentait-elle ?
C'était la beauté. Était-ce un garçon ? Était-ce une fille ? Ça n'a pas de... C'était vraiment la statue en mouvement. Du reste, j'ai lu quelque part que la mode a changé, la mode féminine a changé cette semaine-là, que le lendemain, les couturiers ont été obligés de transformer leur modèle et de prendre une autre direction. Parce qu'elle présentait tout d'un coup un corps différent de ce que l'on imagine en pensant au corps féminin. Et il n'y avait rien d'ambigu. Et puis ces yeux écarquillés qu'ont les nègres, qu'il ne faudrait même pas citer parce que ça a l'air péjoratif. A l'air de les ridiculiser, mais qui allait tellement bien avec son personnage que ça devenait harmonieux, finalement. Cette revue nègre nous a subjugués à un tel point qu'en dehors de la première représentation, nous avons décidé de retourner le lendemain. Et puis, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire qu'au fond, si nous avions à sortir, dîner en ville, quand nous sortions de chez nos amis, nous nous regardions, on pouvait encore voir la revue pendant une demi-heure, clac, on portait la revue nègre, on restait debout, n'importe comment. Nous avons vraiment été voir la revue nègre tous les soirs. Je crois que c'est le fait que c'était monté avec une élégance parfaite. Et c'est un peu la raison pour laquelle ça ne détonnait pas au Théâtre des Champs-Élysées, finalement. Parce que c'était impeccable, de chic, d'élégance, de retenue, sans excès, sans vulgarité.
Le succès est tel que Josephine Baker devient la rivale de Miss Tinguette, d'autant que l'Américaine a de nombreux atouts. Non seulement elle est belle, non seulement elle est drôle, elle s'amuse à loucher, elle danse, elle se déhanche, elle a aussi une voix. Une voix emplie de blue notes, cette coloration jazz qui est nouvelle à Paris.
Battant des mois à mi-voix,
emporte-moi.
Ton pays est Paris. Pars toujours. Ton cœur est ravi. Ta savane est belle. Mais à quoi bon?
La revue nègre est l'ultime grain de folie de cette décennie. Le couturier Paul Poiret et les artistes de l'art déco sont au diapason de cette nouvelle ligne esthétique. L'orfèvre, Dinandier, et laqueur, Jean Dunant, conçoit des bijoux en or et en laque dont s'entiche la couturière Jeanne Lanvin, de même que Joséphine Baker. L'américaine pose nue, tour à tour souriante ou grimaçante, avec pour seule parure un collier surnommé girafe et des bracelets d'or aux motifs d'inspiration africaine conçus par Jean Dunant. La revue nègre fait aussi entendre une nouvelle forme musicale, le hot jazz, car jusqu'à cette date, c'était plutôt du ragtime, du blues ou des danses comme le charleston ou le lindy hop qui étaient arrivés au compte-gouttes en France, notamment avec le jug band de James Reese Europe, orchestre constitué d'instruments rafistolés. Des soldats américains de la Première Guerre mondiale en jouaient. Ces musiques syncopées ont titillé la curiosité des compositeurs et musiciens à Paris de ces années 20.
Le second choc qui m'a aplati le dessus de la tête pendant pas mal d'années, ça a été le retour d'Yves Nat,
Jean Viennet.
Retour d'Amérique, qui venait un jour déjeuner chez mes parents à ce retour et qui m'apportait, écrit sur un dos d'enveloppe, les quelques premières mesures de ce qu'on appelait à l'époque un ragtime. Et alors, je dois dire que ça m'a fait une impression considérable et que toute ma vie, les caractéristiques de la musique négro-américaine, c'est-à-dire d'une espèce d'improvisation mélodique très souple sur un bâti en ciment armé, si j'ose dire, cela m'a toujours très impressionné. D'ailleurs, je pense que c'était assez proche de Jean-Sébastien Bach, enfin si je n'ai pas peur de cette scandaleuse comparaison.
Thank you.
Jean Wiener joue George Gershwin, puis improvise dans le style de Bach. Il est un des habitués des salons d'une autre américaine, Winaretta Singer Polignac. Arrivée à Paris enfant, dès 1867, donc bien avant Joséphine Baker, Winaretta est la richissime héritière des industries Singer et veuve du prince Edmond de Polignac. Elle développe une grande curiosité pour la musique de son temps. Et dans son hôtel particulier du 3 rue Courtembert, se déroulent les concerts les plus passionnants du moment, avec tous les musiciens auxquels la princesse, surnommée Winnie, a passé commande. C'est dans le salon de la princesse de Polignac que Sergueï Prokofiev donne, le 21 juin 1925, son troisième concerto pour piano réduit pour un petit orchestre de 32 musiciens en restreignant le pupitre des cordes. Winaretta déclare fièrement que Prokofiev a réécrit l'œuvre spécialement pour elle. La princesse est un des principaux soutiens de Germaine Taillefer, à qui elle commande son premier concerto pour piano.
à ce moment-là, on avait, et on en a malheureusement encore un petit peu besoin dans nos pays, mais enfin, on avait surtout, à cette époque-là, très besoin des mécènes, surtout quand ces mécènes avaient fait bon goût.
Jean Viennaire.
Parce que le côté assez affreux des mécènes, en dehors de bien d'autres considérations, qui peuvent avoir aussi pas très bon goût. Mais nous avions ici un certain nombre de mécènes, et particulièrement une dame dont je parlerai aussi longtemps que je vivrai, qui a vraiment fait pour les musiciens des choses merveilleuses et qui avait un goût extrême, c'était Madame de Polignac, Winnie comme on l'appelait, et qui était une grande dame américaine et qui vraiment a commandé à des musiciens leurs plus belles choses, avait des concerts chez elle, où elle avait une avenue Henri Martin, une magnifique salle de concert, et où, je me rappellerai toujours, elle avait un grand fauteuil, ça doit être quelque chose, je ne suis pas très ferré, mais enfin, ça doit être quelque chose comme Henri II, ou quelque chose comme ça, ou Henri III, vous savez, avec des dossiers énormément hauts, comme ça. Alors elle était très tranquille, elle était tout à fait comme un général, très loin devant ses troupes, ça, dans ce fauteuil, absolument isolé. Et derrière, il y avait tout le gratin, enfin tout le beau monde de Paris, parmi lesquels il y avait de très grandes célébrités, de très grands acteurs, et puis aussi des gens qui ne vraiment n'avaient rien à voir là-dedans, si ce n'est que leur rang mondain avait fait qu'on leur avait envoyé un carton et que s'ils n'avaient rien de mieux à faire, ils étaient venus.
Alors c'était très élégant et comme car et comme toilette.
Ah, c'était d'une richesse, c'était d'une richesse terrible. Mais alors la princesse était magnifique parce qu'elle ne se préoccupait absolument de personne. Elle se faisait elle écoutait son petit concert qu'elle s'était offert, après s'être offert en général l'œuvre qui lui était dédiée et qui était éditée grâce à elle, etc. Et vraiment, enfin, c'est chez elle qu'on a entendu pour la première fois le retable de Maître Pierre de Faya, Mavra de Stravinsky, et des tas de choses de Millot, enfin de tout le monde.
C'est et alors vous-même, vous avez joué là-bas très souvent, naturellement.
Moi, j'ai joué avec Igor à deux pianos son concerto qu'elle lui avait commandé, son concerto de piano. Oui. J'ai joué moi-même un petit concerto franco-américain que j'avais donné chez Padlou à cette époque-là, qui était un petit mélange de musique classique et de rythme négro-américain. Enfin, vraiment, chez Madame de Polignac, on a entendu des musiques absolument admirables, dans un cadre, évidemment, qu'on regrettait un peu, en ce sens que c'était limité à certains mondes qui gâchaient, parce que, voilà, c'est une époque à la fois merveilleuse et effrayante, en ce sens que c'était un gâchis de génie et de choses merveilleuses et une mauvaise distribution de ces choses merveilleuses parce que ça ne dépassait pas ce palais, n'est-ce pas ?
Il y avait une cinquantaine de personnes.
Non, il y avait tout de même plus que ça. Mais vraiment, à l'époque, on peut dire que toutes ces beautés étaient distribuées au grand maximum à 12 ou 15 ou 100 personnes.
Winnaretta prend tout autant de plaisir à présenter ses amis artistes et musiciens les uns aux autres. La rencontre entre Colette et Anna de Noailles dans l'atelier Polignac marque le début d'une longue amitié entre les deux autrices. Celle de Colette avec Maurice Ravel porte ses fruits. L'écrivaine demande au compositeur d'écrire la musique sur un livret de l'enfant et les sortilèges. Le rapprochement entre Ravel et Colette ne semble pas naturel au premier abord, mais ils ont un point commun. Tous deux sont très sensibles à la magie du quotidien.
Black and ghost, oh black and cheek, black, 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 dolly fellow, black and pansa. Punch your nose. I punch, I knock out you stupid shows. Black, black, and thick, and label boss, I box you. I box you. I'm a bloody woman. Kings of war, kings of war, is
parmi les habitués du salon de Winaretta de Polignac, il y a Léon Paul Fargue, toujours en retard, débraillé et couvert de boue, image extrême de l'artiste bohème. Et puis Colette, qui malgré sa renommée a encore la faculté de choquer, avec son fort accent bourguignon, son maquillage charbonneux et ses sandales, qui laissent entrevoir des ongles rouges vifs. C'est là que la jeune Clara Askill fait ses débuts. La pianiste roumaine est d'abord éclipsée par des virtuoses plus extraverties comme Cortot ou Horowitz. Son style n'a rien de flamboyant, elle n'a pas l'allure suave et l'aisance mondaine de virtuoses russes. Mais très vite, Winaretta de Polignac décide de devenir la protectrice de Clara Askill. Elle la présente à Stravinsky, à Poulenc, à Rubinstein et à Henri Sauguet. La princesse de Polignac fait de la pianiste timide son nouveau projet. À partir de 1927, elle verse à Clara Askill une petite pension mensuelle et elle l'héberge avenue Henri Martin. En échange, la pianiste est l'obligée de la princesse pour donner des récitals. Elle doit aussi assister aux innombrables dîners et réceptions de Winaretta. Ces mondanités sont un supplice pour Clara Askill qui, aux grandes dames de sa protectrice, essaye de les fuir en se cachant derrière une porte ou en filant à la cuisine pour manger avec les domestiques.
Thank you. 20 musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
La princesse de Polignac fait aussi entrer le jazz dans son salon par amitié pour un concitoyen américain, Cole Porter. Dès l'automne 1917, une future étoile de la musique américaine a pris place au piano de la rue Cortambert. Paul Morand décrit, je cite, « un jeune auteur yankee en mission à Paris qui joue des ragtime, des foxtrots, des airs de marche de la nouvelle armée américaine en France. L'un de ces airs, je cite toujours Paul Morand, est assez nègre, d'une jolie longueur. » Bien qu'il ne soit pas nommé spécifiquement dans le journal de Paul Morand, ce pianiste ne pouvait être autre que le jeune Cole Porter, âgé de 26 ans, qui venait d'arriver dans la capitale française. Cole Porter et la princesse ont plusieurs points communs, outre leur nationalité et leur passion musicale. Ils sont tous deux riches et cachent leur homosexualité.
Chinks do it, Japs do it, up in Lapland, little Laps do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best supper sets do it. Lithuanians and let's do it, let's do it. Let's fall in love. The Dutch in no lips a damn do it. Not to mention. Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love.
L'élégant Cole Porter n'a pas mis longtemps avant de se faire une place confortable à Paris. Il vit une existence mondaine à travers l'Europe, donnant de grandes soirées fabuleuses, accueillant de riches invités cosmopolites et célèbres. Il est couvert par son mariage avec une américaine fortunée, Linda Lee Thomas. Winaretta Singer-Polignac a bien essayé de placer le talentueux Cole Porter auprès de son protégé, Igor Stravinsky, pour des cours de composition. Elle fait même entrevoir au compositeur russe une manne substantielle. Porter payera absolument tout ce que vous voudrez, c'est un très gentil garçon, intelligent et doué, et multimillionnaire, écrit la princesse. Mais Cole Porter propose la moitié de la somme exigée par Stravinsky, et il met un terme à cet accord par le biais d'un avocat. Stravinsky écrit alors à Polignac « Je ne vous cache pas que sa façon d'agir m'a froissé et je regrette beaucoup qu'il vous ait dérangé pour rien. »
Why am I just as happy as a little bit of child? Why am I like a racehorse running wild? Why am I in a state of ecstasy? The reason is 'cause something happened to me. I'm in love again, and the spring is coming. I'm in love again. Hear my heart sing, drumming. I'm in love again, and the tune I'm humming is the huddle of blues. I'm in love again, and I can't rise above it. I'm in love again, and I love it. I'm in love again, and I'm darn glad of it. Good news. The sun shines brighter, and I know why. My heart is lighter, and I know why. Although it doesn't matter to ya, I feel a shouting hallelujah. The skies seem bluer, and I know why. My cares are fewer, and I know why. Now you don't know the reason, do ya, huh? You can't guess? Well, I'll confess, I'm in love again. Da-doodle-doo. I'm in love again. Da-doodle-doo. I'm in love again. Da-doodle-doo. I've got the huddle of blues. I'm in love again, and I can't rise above it. I'm in love again, and I love it. I'm in love again, and I'm darn glad of it. Good news. Can you believe it? You know, I said I'd never fall in love again. Why, when I'm in love, I'm so miserable. I can't sleep, and I can't eat. So after my last engagement was broken, I said, I'm through. And then you came along, and just like that, I was in love again. And I'm darn glad of it. Good news. someone sad had the awful bad luck to meet me. Someone bad, but the kind of bad that's sweet. No one knows what a little glimpse of paradise. Someone who's naughty showed to someone who's
Cole Porter, un soir de 1925, pousse la porte du Grand-Duc, un cabaret situé au 52 rue Pigalle. Il s'installe seul à une table. L'hôtesse des lieux est la chanteuse et danseuse noire américaine Ada Smith, surnommée Bricktop. Sans se douter de l'identité de son visiteur, elle interprète l'une de ses compositions, I'm in Love Again. Cole Porter l'applaudit et il revient les jours suivants, en compagnie de sa femme et de ses amis, le prince de Galles, l'Aga Khan, Elsa Maxwell et autres célébrités. Pigalle est alors l'endroit à la mode et Bricktop est lancée. Elle monte un club à son nom et à la demande de Porter, elle donne des cours de charleston à ses amis de la haute société. pour sa chanson Love for Sale, Cole Porter a trouvé l'inspiration dans un autre club de Pigalle, le Zélys, rue Fontaine. C'est Bricktop qui raconte. Quand Cole a demandé à l'une des entraîneuses ce qu'elle faisait, elle a répondu « I've got love for sale, j'ai de l'amour à vendre ». Love for Sale a été créé en 1930 par Catherine Crawford dans le musical The New Yorkers et sera l'une des compositions préférées de Porter. La chanson compte un refrain de 64 mesures et fait alterner les modes mineurs et majeurs. À cause du sujet traité, la prostitution, ce morceau sera interdit de radio aux États-Unis pendant plusieurs années, mais il deviendra l'un des standards les plus repris en jazz. Le voici, Love for Sale, sous les doigts d'Art Tatum, en 1953.
Thank you.
Indévin Musique Folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Revenons à nos années 20, à Paris. Un autre compositeur américain s'est installé dans la capitale. Il ne fréquente pas le salon de Winaretta de Polignac, il est encore trop jeune pour cela. C'est Aaron Copland. Il habite à Montparnasse, le quartier bohème par excellence, là où d'autres Américains ont élu domicile. Gertrude Stein, Ernest Hemingway, Sinclair Lewis, Archibald MacLeish, E.E. Cummings. Il s'imprègne de tout ce que les cafés de Paris contiennent de jazz et il a peut-être entendu à cette occasion Sidney Bechet, qui donne régulièrement des gigs. Copland est arrivé en France en juin 1921. Il veut passer une année à étudier à l'étranger. Il intègre le tout nouveau conservatoire américain à Fontainebleau. Il reste finalement 3 ans dans la capitale française et il s'attache à Nadia Boulanger, qui est enseignante à Fontainebleau et qui lui prodigue aussi des cours privés chez elle, au 36 rue Ballu, à Paris. Elle l'a adopté comme élève après l'avoir entendu jouer Jazzy, tiré de ses Three Moods. Vous pouviez deviner son talent immédiatement, écrira l'enseignante. De son côté, Aaron Copland dira de Nadia Boulanger, je le cite, « C'est une femme de 40 ans et elle est très certainement l'exception qui confirme la règle qu'aucune femme ne peut être une grande musicienne. Cette amazone intellectuelle est non seulement professeure au conservatoire, elle n'est pas seulement familiarisée avec toute la musique depuis Bach jusqu'à Stravinsky, mais elle est prête à entendre les pires dissonances que j'ai choisi de plaquer sur le piano. Mais il ne faut pas l'imaginer en garçon manqué avec une voix de baryton, c'est la femme la plus charmante qui ait jamais vécu. » Nadia Boulanger présente le jeune compositeur américain Aaron Copland à Serge Koussevitzky. Le chef russe est de passage à Paris en 1923 et il doit prendre les rênes de l'Orchestre symphonique de Boston à partir de la saison 1924-1925. Elle se doute que le chef, champion infatigable de la nouvelle musique, serait intéressé de rencontrer un jeune compositeur talentueux à ramener aux États-Unis. Copland lui joue son cortège macabre au piano. Sergueï Prokofiev est présent. Il regarde la partition par-dessus son épaule. Quand il a fini, Prokofiev fait remarquer qu'il y a trop de basses ostinato. Mais cela ne refroidit pas Koussevitzky, qui annonce son intention de jouer cette pièce pendant sa première année à Boston. Nadia Boulanger sera du voyage. Il est prévu qu'elle fasse ses débuts américains avec Walter Damrosch et l'Orchestre symphonique de New York cette même saison. Ils donneront ensemble la nouvelle œuvre d'Aaron Copland pour orgue et orchestre. Nadia Boulanger aurait pu avoir un autre étudiant américain, George Gershwin. Maurice Ravel a parlé de George Gershwin à Nadia Boulanger. Le 8 mars 1928, il lui envoie une lettre depuis les États-Unis où il est en tournée. « Cher ami, voici un musicien doté des qualités les plus brillantes, les plus séduisantes, les plus profondes peut-être, George Gershwin. Son succès universel ne lui suffit plus, il vise plus haut. Il sait que pour cela, les moyens lui manquent. En les lui apprenant, on peut l'écraser. » Aurez-vous le courage, que je n'ose pas avoir, de prendre cette terrible responsabilité ? Nadia Boulanger refuse, elle aussi. « Je n'ai rien à vous apprendre », dira-t-elle à Gershwin. Car Gershwin est lui aussi venu à Paris. Le 11 mars 1928, Georges, son frère Ira et sa femme Léonore, ainsi que leur sœur Frankie, traversent l'Atlantique pour visiter l'Europe. La Rhapsody in Blue a valu à Gershwin une renommée internationale qu'il savoure. Il est le premier compositeur américain adoubé par l'intelligentsia classique européenne. À Paris, les concerts Padeloup donnent cette pièce dans une version arrangée pour deux pianistes solistes, Jean Viennaire et Clément Doucet. Son concerto en fa est donné à l'Opéra de Paris le 29 mai, dirigé par Vladimir Golchman avec Dimitri Tiomkin au piano. À Paris, George Gershwin s'installe à l'hôtel Majestic. Aux grandes dames des voisins gênés par le piano, il commence à travailler sur une toute nouvelle œuvre, au titre de circonstance, un Américain à Paris. Lors de ce séjour parisien, Gershwin fait la connaissance de différents musiciens, Francis Poulenc, Sergei Prokofiev, Darius Milhaud, Jacques Ibert et Maurice Ravel, qu'il avait déjà rencontré à New York. Les deux hommes sympathisent. Gershwin admire la science harmonique de Ravel, sa perfection technique, et Ravel aime le sens mélodique de Gershwin, sa facilité d'écriture. Thank you.
Thank you.
Que devient Maurice Ravel au retour de sa tournée triomphale aux États-Unis ? Le compositeur basque est contacté par la danseuse Ida Rubinstein. Il voudrait composer pour elle une musique de ballet à partir d'une pièce d'Albenitz et il finit par coucher sur le papier son succès mondial, le Boléro. Mais d'autres œuvres portent davantage les traces d'une influence américaine sur Ravel. Le deuxième mouvement blues de sa sonate pour violon et piano, ainsi que son concerto en sol majeur achevé en 1931. Nous reparlerons de Ravel la semaine prochaine lors de ses tournées européennes, car oui, nous allons parcourir l'Europe de Berlin à Londres en passant par Vienne et Barcelone. Je vous parlerai aussi des continents sud-américains et africains, et en particulier d'un Américain lui aussi venu à Paris, Villa-Lobos. Réalisation Catherine Prin-Legal, prise de son Alexandre Billard, attaché de production Marie Ferdinand. À la semaine prochaine. Et c'est maintenant le tour de chant de Martin Penet.
À réécouter sur francemusique.fr.